La fille, 18h30 à Paris. Vous êtes à présent avec Romain Ozoui. Bonsoir Romain.
Bonsoir Marion, bonsoir à tous, bienvenue. Et ce soir, c'est Mardi Politique sur RFI. Dans 40 minutes, notre invité sera Manuel Bompard, député des Bouches-du-Rhône, coordinateur national de la France Insoumise. Il sera interrogé par Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière. 19h30, dans une heure, la première édition d'Afrique Soir avec Zéphirin Quadio et à la une le Sénégal. Le Sénégal à la veille de l'examen par les députés de l'Assemblée nationale et bien de cette proposition de loi d'amnistie qui fait beaucoup parler, initiée par le président Macky Sall. Rendez-vous donc dans une heure. Pour l'heure, c'est votre débat.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et ce soir, nous parlons cybersécurité. Car il faut le reconnaître, la période est vraiment charnière entre un monde fracturé, marqué par des guerres ouvertes, et des événements majeurs qui se profilent. On peut citer les Jeux Olympiques de Paris cet été. Les cyberattaques inquiètent au plus haut niveau et pour cause, elles sont en augmentation partout dans le monde et l'évolution des techniques fait craindre les pires menaces. Notre question ce soir, faut-il hacker les hackers? À savoir, est-ce qu'il faut utiliser les mêmes méthodes qu'eux pour faire face à cette cybercriminalité? Quitte donc à entrer dans un espace illégal? Ou bien faut-il rester dans un cadre dans légal, dans les clous, comme on dit, avec le risque d'action limitée? Quelle doctrine adopter? Quels moyens déployer pour être à la hauteur de l'enjeu? Soyez les bienvenus dans le débat du jour.
RFI.
Et pour répondre à ces questions, nos trois invités à mes côtés en studio, Jérôme Billois, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes expert en cybersécurité au sein du cabinet de conseil Wavestone, c'est un cabinet de conseil français. Auteur du livre « Cyberattaque, les dessous d'une menace mondiale ». Face à vous, Sébastien Dupont, bonsoir.
Bonsoir.
Ancien responsable sécurité informatique de l'Hexagone Ballard, que vous surnommez le Pentagone à la française, donc vous travaillez à l'époque au ministère des Armées, aujourd'hui directeur du centre Cyber4You, auteur de « Vous êtes fou d'aller sur Internet ». Notre troisième invité est en ligne avec nous. Bonsoir, Karine Bannelier.
Bonsoir.
Maître de conférence en droit international, directrice du Grenoble Alpes Cybersécurité Institute, qui regroupe plus de 100 chercheurs en cybersécurité. Votre ouvrage, dont vous êtes co-auteur, « Cyberattaque, prévention, réaction, rôle des États et des acteurs privés ». Merci à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Alors d'abord, Jérôme Billois, est-ce qu'on peut faire un rapide tour d'horizon de la menace cyber aujourd'hui? À quoi est-ce qu'elle ressemble? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a d'un côté les attaques entre guillemets privées, d'autres, de l'autre côté, les attaques menées par les États? Et finalement, entre les deux, qu'est-ce qui est le plus courant?
Alors, on a clairement trois grands types d'attaquants. Il y a des attaquants qui vont agir pour de l'activisme, c'est-à-dire qui vont attaquer pour défendre une cause, nuire à une marque, faire passer leur idéologie. Ceux-là peuvent être plutôt du côté, on va dire, public. Peuvent être plutôt du côté privé. C'est plutôt des individus qui se mobilisent. On a une deuxième grande catégorie, c'est ceux qu'on entend le plus, c'est ceux qui sont le plus actifs aujourd'hui, c'est les cybercriminels. Eux, ils attaquent clairement pour gagner de l'argent, ils volent des données, ils font des fraudes, comme tout un chacun, les auditeurs peuvent malheureusement en subir. Ils attaquent aussi les entreprises pour bloquer les systèmes, demander des rançons. Là, on est vraiment sur des individus, des criminels. Voilà. Et puis, on a une troisième catégorie, qui sont là plutôt les États, qui justement vont agir pour déstabiliser, pour espionner, dans le cadre de conflits ouverts, comme ceux malheureusement qu'on vit ces temps-ci, mais aussi dans des activités beaucoup plus secrètes, voire des activités qui peuvent aller jusqu'à la désinformation. Dernier point là-dessus, c'est finalement que ces grandes familles, qui, comme je vous les présente comme ça, ont l'air d'être très claires, ont une forte porosité entre elles, parce qu'elles utilisent les mêmes outils, elles utilisent les mêmes compétences, et il peut y avoir justement des jeux entre tous ces acteurs pour des fois un État faire passer ses actions sous la coupe d'activistes, ou aussi des États ou utiliser des cybercriminels pour récupérer des informations ou commettre certaines actions.
Parmi ces catégories que vous avez citées, est-ce qu'il y en a une qui est de nature à être plus inquiétante qu'une autre, peut-être celle menée par des États, parce que
ça dépend où on place l'inquiétude. Si on est sur une inquiétude à l'échelle économique, celle qui fait le plus mal aujourd'hui aux entreprises,
c'est celle qui est menée par des acteurs privés,
c'est les cybercriminels.
Ouais. Voilà. On peut évaluer financièrement, alors, ce que ça pèse aujourd'hui dans le monde?
En tout cas, ce qu'on sait, c'est les montants de rançons qui sont collectés typiquement sur les actions type rançon logiciel, et on parle de plusieurs centaines de millions de dollars qui sont collectés par ces acteurs-là. Et s'ils ont été collectés, c'est qu'ils sont sortis des poches d'une entreprise ou d'un particulier, et donc ça fait très très mal économiquement. Après, si on parle d'un impact sur nos sociétés, sur la démocratie, sur notre patrimoine économique, et souverain, finalement, c'est évidemment les attaques étatiques qui peuvent faire le plus mal, même si on en voit beaucoup moins souvent.
Quand vous étiez, Sébastien Dupont, justement, au sein de ce Pentagone à la française, comme vous disiez, vous étiez responsable sécurité informatique de l'Hexagone Ballard, vous avez vu arriver ces attaques menées par des États?
Tout à fait.
Quelle forme elles ont ?
Je ne peux pas tout raconter, non, vous doutez bien, sur ce projet, beaucoup de confidentialité. Mais ce projet s'est monté au même moment où Snowden a révélé
Edward Snowden,
les méthodes de certains pays. Et ça a amené, même si ce risque était déjà pris en compte, on peut l'imaginer, par ce secteur de la défense, ça a amené une prise de conscience généralisée. Et ça montre à quel point aujourd'hui, chaque entreprise, chaque chef d'entreprise doit prendre en compte dans son travail la menace à son juste niveau. Voilà, c'est aujourd'hui un des risques premiers pour un chef d'entreprise, peut-être un des trois premiers risques. Et il ne faut pas se contenter de faire du chiffre d'affaires, de faire du bénéfice. Il est important aujourd'hui de se protéger, de ne pas voir le numérique uniquement comme un atout et un avantage, mais aussi se protéger, protéger les emplois en France. Et il faut qu'on soit tous sensibilisés là-dessus. Il y a par contre un point...
Vous n'avez pas répondu à ma question, cependant. Concernant justement, parce que là vous dites se protéger dans le secteur des entreprises, donc j'imagine les employés, les employeurs, finalement, c'est la mission de chacun. Mais on parlait de la catégorie émanant des États. Et je vous demandais, vous, justement, quand vous étiez à l'Hexagone Ballard, globalement, comment ça se passait ? Je vous en parle en détail.
C'est très compliqué pour moi parce que l'ensemble du projet est un projet confidentiel défense, donc je serais amené...
Mais ce que je veux dire, c'est à quoi ressemblent les menaces, la cybersécurité menée par des États ?
Alors, en fait, ce qu'il faut imaginer...
La désinformation, a dit Jérôme Bilois, notamment.
Ce qu'on peut généraliser, c'est qu'un État va prendre beaucoup de temps pour monter une attaque. Ça peut être des personnes qui s'introduisent. Vous devez prendre en fait le risque d'un attaquant qui s'introduit, que vous côtoyez, avec qui vous prenez le café, qui peut être une personne payée par un État étranger. Donc il faut aller sur un niveau de la prise en compte de la menace très très fine, dans un niveau de détail qui est incroyable. Et alors évidemment, c'est un niveau où on a exacerbé ces expériences menées par l'État français qui sont riches, parce qu'après, quand le ministère de la Défense met au point des méthodes, elles sont transférées à l'ANSSI, je pense à toutes les méthodes d'homologation, transférées à l'ANSSI, qui les partagent à tout le monde. Quand vous avez un guide de l'ANSSI entre les mains, c'est pour les experts sécurité, c'est un document qui a plusieurs millions d'euros de valeur en termes d'expérience, de dizaines d'années d'expérience derrière. Les gens ne s'en rendent pas compte. Une bonne pratique de sécurité, souvent on s'en moque, mais ça a une valeur incroyable. C'est comme, c'est des choses qu'on a acquis, comme quand on prend des chaussures de montagne pour aller à la montagne, mais c'est des choses sur lesquelles on n'a pas pris conscience de la valeur d'une bonne pratique de cybersécurité.
Karine Bannelier, est-ce que finalement aujourd'hui dans le monde, on a les moyens de nos ambitions ? Est-ce que la lutte contre la cybercriminalité, elle est aujourd'hui à la hauteur des enjeux ?
Alors, c'est effectivement extrêmement difficile de répondre à une telle question, dans la mesure où la cybercriminalité a une dimension mondiale. Et donc, pour lutter contre cette cybercriminalité, les États peuvent lutter, bien sûr, chacun sur leur territoire, mais il y a une nécessité de coopération internationale. Et cette coopération internationale, elle doit se réaliser grâce à des conventions internationales, grâce à des enceintes internationales de coopération. Il y en a déjà qui fonctionnent, par exemple Europol, puisque dans l'affaire récente de Lockbit, on a vu que c'est une action coordonnée par Europol qui a permis ce démantèlement.
Ouais. On peut s'arrêter, puisque vous citez, je me permets, oui. Lockbit. On peut, pour nos auditeurs, s'arrêter quelques instants, parce que ça a été effectivement une opération très importante qui a eu lieu ces dernières semaines. Lockbit, c'est considéré comme le gang, un des plus grands gangs de cyberattaque, et c'est une attaque qui a été une opération de police pour démanteler. Déjà, est-ce que Lockbit a vraiment été démantelé, parce que c'est ainsi que c'est acté? Est-ce que ça risque pas de se reformer sous une autre manière? Et surtout, est-ce que c'est le meilleur exemple aujourd'hui de la lutte contre la cybercriminalité, puisque vous évoquiez Europol? Ce sont 11 États, c'est ça, qui ont participé à cette opération policière contre Lockbit.
Oui, alors En effet, c'est un bon exemple de ce qu'on arrive à faire aujourd'hui. Néanmoins, il s'agit ici d'Europol, de 11 États. Nous avons 193 États sur la scène internationale. Il n'y a pas des Europol partout. Et ça, c'est la grande difficulté. C'est-à-dire que sur le continent africain, sud-américain, on a des manques, et ailleurs encore, on a énormément de manques de coordination, de coopération internationale entre les États pour lutter de façon coordonnée contre ces cybercriminels. Et la grande difficulté, c'est, comme cela a été souligné, c'est que la cybercriminalité coûte beaucoup, donc c'est très cher. Et les cybercriminels, eux, en revanche, ont des moyens financiers qui sont absolument considérables aujourd'hui.
Ils viennent d'où, ces moyens financiers ?
Ben, grâce notamment à leurs activités cybercriminelles. D'accord. Qui les ont considérablement enrichis. Donc on a un cercle vicieux qui est en train de se construire, et donc ces activités criminelles les enrichissent, et grâce à cet enrichissement, ils peuvent aller de plus en plus profondément dans ces activités cybercriminelles.
Aujourd'hui, vous diriez que la lutte n'est pas à la hauteur de la menace ?
Je pense qu'elle est, si on le prend sur le plan mondial, évidemment, on est très très loin d'être en capacité de faire face à cette menace actuellement.
Jérôme Bilois, finalement, Karine Bannelier nous dit qu'il y a des trous dans la raquette, qu'il y a une organisation disparate selon évidemment les moyens des États.
Oui, des États et des entreprises. Je peux vous citer quelques chiffres. Hein. On remarque qu'il y a quand même un sous-investissement dans la cybersécurité depuis des années. Aujourd'hui, nous, on maintient un benchmark de 150 organisations. On va évaluer sur le terrain, en causant avec eux, leur niveau de sécurité par rapport aux normes internationales. Et aujourd'hui, la moyenne de respect de ces normes internationales, on est à peine à 50%. Donc on a fait la moitié du chemin sur la sécurisation de nos systèmes. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les systèmes numériques, c'est des systèmes qui changent en continu. Vous avez vu certainement l'arrivée de l'intelligence artificielle en force l'année dernière. Et même dans les entreprises, il y a des tas de nouveaux systèmes qui sont en train d'être déployés. Et la cybersécurité, malheureusement, elle court toujours un peu derrière. On a du mal, malgré les efforts des hommes et des femmes qui sont sur le terrain, à bien mettre la sécurité dès le départ.
Il faudrait que ça aille de pair. On développe un système et on développe la sécurité qui va avec.
Aujourd'hui, quand vous achetez une voiture, il y a les airbags, il y a la ceinture de sécurité, voire même quand vous choisissez une voiture, vous regardez ces étoiles au crash test, parce que vous voulez une voiture sûre. Et finalement, l'informatique, le numérique, ben on est un peu comme dans les voitures dans les années 1960, 1970. Là où ce qui comptait, c'est le bruit du moteur, la vitesse, et puis les accidents, on verra après. Il faut se souvenir qu'à l'époque, les ceintures de sécurité, c'était une option. Il fallait payer pour avoir une ceinture de sécurité dans sa voiture. Et ben dans le numérique, aujourd'hui, c'est ça. On a des ordinateurs hyper puissants, des systèmes qui vont hyper vite, on veut aller hyper vite, et on rajoute la sécurité avec deux trombones et trois élastiques après. Et c'est ça qui fait qu'on a ces portes ouvertes, quelque part, pour les cybercriminels dans les entreprises, mais aussi pour les espionnages des États.
Donc, clairement, les moyens pas à la hauteur, vous le dites. Concrètement, comment se passe la lutte contre la cybercriminalité ?
Alors, les moyens ne sont pas à la hauteur, mais ils ont quand même beaucoup augmenté. Il faut quand même voir qu'au niveau de l'État, en particulier en France, on a eu une mobilisation très forte. Notre Agence nationale de cybersécurité, l'ANSSI, a été citée il y a quelques minutes. Ouais. Le ministère de l'Intérieur là, s'est récemment réorganisé pour créer un commandement cyber qui inclut à la fois les forces de gendarmerie et les forces de police. Aujourd'hui, quand vous allez dans les commissariats ou dans les gendarmeries, vous avez maintenant des gens qui ont été formés pour faire les dépôts de plaintes, pour aussi faire des enquêtes numériques. Donc, il y a quand même une prise de conscience qui, on va dire, a 5-6 ans et qui commence à porter ses fruits. Donc, on est au début, je pense, d'une amélioration.
Et on évoquait les disparités, justement, avec Karine Bannelier. Est-ce que la France est à la pointe ? Est-ce qu'il y a d'autres pays européens qui sont en pointe sur ces questions-là ?
La France n'est clairement pas dans les derniers de la classe. On est
mais pas dans les premiers, cependant.
Ben, on est, je pense, quasiment dans le top 5. Okay. Snowden, on parlait de l'affaire Snowden, qui a révélé beaucoup de secrets de la NSA, donc les services de secrets américains qui sont dans le cyberespace. Si on regarde les pays qui craignaient, la France était dans ces pays-là. Parce qu'en France, on a su, au fil des années, quand même développer une expertise très forte. Notre problématique, c'est de passer cette expertise à l'échelle pour bien protéger tout le territoire. Mais les compétences pointues, on les a. Les idées, même la réglementation. La France a été un des premiers pays européens, un des premiers pays mondiaux à mettre une réglementation pour protéger les infrastructures critiques. L'eau, le gaz, l'électricité, les télécoms. Ça, c'est arrivé en France dès 2013. Et on était clairement un des premiers pays mondiaux à le faire. Aujourd'hui, nous ont tous copié. Il y a même des directives européennes pour ça.
Le débat du jour sur RFI. Romain Ozoui.
Faut-il hacker les hackers, la question qu'on pose ce soir. Évidemment, quelques semaines après ce démantèlement très important de Logbit, opération policière internationale, l'un des gangs les plus actifs dans le monde en matière de cybercriminalité, responsable d'un quart des attaques dans le monde, selon Europol, l'agence européenne. Mes trois invités, Jérôme Bilois, que l'on vient d'entendre, expert en cybersécurité au sein du cabinet de conseil Wavestone, Sébastien Dupont, ancien responsable sécurité informatique de l'Hexagone Ballard, directeur aujourd'hui du centre Cyber4U, et Karine Bannelier, maître de conférence en droit international, directrice du Grenoble-Alpes Cybersécurité Institute, qui regroupe plus de 100 chercheurs en cybersécurité. J'allais frontalement poser la question, faut-il hacker les hackers ? Karine Bannelier, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Jérôme Bilois sur quoi ? Sur les moyens sur la déployés par la France ?
Tout à fait. Je voulais effectivement rebondir pour dire, comme l'a souligné Jérôme Bilois, que la France est quand même à la pointe dans la réglementation et la protection des infrastructures critiques, puisque c'est vraiment la France qui a initié cette démarche et qui a été ensuite reprise à l'échelon européen. Et qu'il y a une nouvelle marche là à franchir, parce que protéger les infrastructures critiques, c'est essentiel, mais il faut maintenant franchir la marche qui est de protéger davantage les TPE et les PME.
Les petites entreprises.
Voilà, qui sont aujourd'hui les premières victimes des cyberattaques, puisque les grandes entreprises et les infrastructures critiques sont désormais plutôt bien protégées.
Malgré tout, c'est pas ce qui fait le plus peur dans les cyberattaques, parce qu'on va peut-être parler des Jeux Olympiques de Paris 2024, des élections américaines en fin d'année. On a peur du blackout total avec les cyberattaques. Cependant, je remarque que vous revenez souvent, vous, Karine Bannelier, Jérôme Bilois, vers cette menace qui vise les entreprises. Est-ce que c'est ce qui est le plus préoccupant selon vous ? Je reste avec vous, Karine Bannelier.
Alors, ça fait partie des aspects extrêmement préoccupants dans la mesure où les TPE, PME forment le tissu économique d'un pays. Et donc, il est absolument nécessaire de les protéger. Mais évidemment, il n'y a pas que les TPE, PME. Hein, on pense aux hôpitaux, aux infrastructures critiques qui restent quand même la cible de nombreuses cyberattaques. On l'a vu dans l'actualité, notamment française, avec des hôpitaux qui sont bloqués. Et donc, ce n'est pas non plus la seule préoccupation, les TPE, PME. Il faut vraiment faire l'ensemble.
Sébastien Dupont, est-ce qu'il y a une doctrine française ? On rentre dans le vif du sujet. Faut-il hacker les hackers ? Est-ce qu'il y a une doctrine française qui fait, peut-être conformément à la culture française, qu'on va rester dans des clous, qu'on ne va surtout pas entrer dans l'illégalité pour contrer cette cybersécurité ?
Alors, est-ce que les Français, on sait être innovants ? On sait prendre des risques ? Est-ce qu'on sait apporter des justes réponses à des besoins, hacker les hackers, faire la contre-attaque, c'est-à-dire une entreprise qui se ferait attaquer, est-ce qu'on l'autorise à attaquer en retour le cybercriminel ? C'est le débat du jour.
Merci.
Ça peut être une solution peut-être un peu simpliste et qui est quelque part de donner des armes à toutes les entreprises, hein, parce que c'est des méthodes, donc c'est des armes, hein, qui, avec une prolifération, et on peut se retrouver avec ce risque, comme aux États-Unis, de surarmement d'une population, et où ça tire un peu dans tous les coins. La principale difficulté qui est liée à la cybersécurité, c'est le sujet de l'attribution. C'est-à-dire que c'est très compliqué de savoir qui est à l'origine d'une attaque, parce que l'attaquant peut passer par des proxys, par des relais, par une société tierce. Et donc, il y a ce sujet-là. Il y a évidemment des sujets qu'on peut retrouver dans le droit commun, comme la légitime défense, la proportionnalité, etc. Donc, il faut être très, très prudent. Aujourd'hui, c'est réalisé par des États. Donc, c'est réalisé, il y a en France, je crois, deux entités. Alors, c'est public, je crois qu'on peut le dire. Le ministère de la Défense a des capacités offensives. L'ANSSI a des capacités offensives. Elle le dit, même s'il n'y a pas de rapport public là-dessus. Moi, je milite pour qu'il y ait, au niveau européen, une capacité offensive, voilà. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ce soit dans les mains des États. Il pourrait y avoir une condition à laquelle ce soit dans la main des entreprises, mais dans un scénario, là, on fait la prospective à des années, peut-être d'ici 20 ans, 30 ans, c'est si on est un scénario où l'État est débordé par toutes les attaques. Un peu comme des zombies qui arrivent dans la ville. Et dans ce cas-là, il faut que tout le monde mette la main à la pâte pour se défendre.
Mais est-ce que l'État doit utiliser les méthodes illégales pour lutter contre les hackers ?
Alors, il suffit qu'il y ait un texte légal pour autoriser l'État à le faire et ça devient légal.
Tant qu'il n'y a pas de texte légal, ce n'est pas possible.
Alors là, on va laisser les experts du droit se positionner, mais effectivement, il faut que... Alors, c'est les députés qui votent un texte et après, L'État français fait ce qu'il veut. Hein.
Karine Bannelier, maître de conférence en droit international, c'est qu'elle le dire. Est-ce qu'il y a des choses gravées dans le marbre sur ce que peuvent faire, jusqu'où peuvent aller les experts en cybersécurité pour lutter? Il y a une cyberattaque, il est urgent d'agir. Jusqu'où peut-on aller?
Alors, je trouve que c'est extrêmement complexe, cette question. Et comme cela vient d'être bien souligné, attaquer en retour... une victime qui attaquerait en retour, c'est un problème. Il y a des problèmes d'attribution, il y a des problèmes techniques d'attaque en retour, mais il y a aussi des problèmes légaux, à savoir que c'est interdit. Le droit interdit de hacker, que ce soit en premier ou en retour.
Mais alors, pardon, je pense à d'autres situations peut-être plus inquiétantes. On évoquait les hôpitaux, par exemple, comme l'hôpital de Corbeil-Essonne qui a été touché par une attaque récemment. Il est bloqué, comment le débloquer? C'est ça la question, par exemple. Est-ce que là, on peut utiliser des méthodes jugées illégales?
Ça, c'est sur des questions plutôt techniques, là, que je pense que...
Jérôme Bilois, on reviendra vers vous, Karine Bannelier, sur les aspects du droit.
Alors, après, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cyber, il y a justement la défense, le côté défensif et le côté offensif. Quand un hôpital se fait attaquer, quand ses systèmes sont arrêtés, quand les données ont été volées et sont chiffrées, c'est quasiment trop tard. Mmh. C'est-à-dire que la priorité numéro un, c'est plutôt de faire de la défense. C'est-à-dire, c'est de remonter un mur rapidement, de relancer les systèmes, de pouvoir réouvrir les urgences, de pouvoir réouvrir les IRM, les radios, etc. Donc, on est plutôt dans cette logique défensive dans l'urgence. Après, le côté offensif, il a... deux aspects, et il y a quand même une doctrine en France qui est assez claire, hein, qui a été mise dans la stratégie nationale de cybersécurité, justement. L'État français se donne le droit de faire des opérations offensives en cyber.
Ça veut dire quoi, opération offensive?
Précis, attaquer. Ça veut dire attaquer des systèmes, attaquer dans le cadre, par exemple, d'un conflit armé. Le côté cyber est complètement assumé aujourd'hui, d'ailleurs par de très nombreux États, hein, et dont la France. Et d'ailleurs, on n'envisage plus aujourd'hui une opération militaire sans un pendant cyber. On l'a même vu dans le cadre du conflit Ukraine-Russie. Et donc, après, techniquement, est-ce que c'est illégal? Oui, certains morceaux d'outils d'attaque, d'applications d'attaque. Hein. À la fin, c'est un cyberattaquant, c'est quelqu'un qui est devant un ordinateur et qui veut utiliser une application pour faire de l'attaque. Oui, il y a des choses qui sont illégales, mais qui, dans un cadre bien défini, réalisé par un État... comme on le voit d'ailleurs sur des opérations d'espionnage, d'infiltration, d'opérations militaires, ça devient légal, c'est possible de le faire.
Ça, c'est le cas de la France. Est-ce qu'il y a des grandes différences de doctrine à l'étranger?
La doctrine est quand même assez stable dans l'ensemble des pays. On voit une tendance très forte quand même au niveau des États-Unis pour pousser à l'autorisation d'un hackback, donc d'une contre-attaque cyber, plus ouverte et en particulier autorisée aux entreprises. Qui pourrait se défendre un peu dans une logique de légitime défense cyber par elle-même. Mais alors ça, là pour moi, clairement, on touche la ligne rouge. C'est
Pourquoi
extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le cyber, déjà, on ne sait pas qui attaque.
Oui.
Voilà, c'est ce qui a été évoqué, la problématique de l'attribution, etc. On pourrait parler des JO, mais vous vous souvenez peut-être, JO d'hiver, qui avait lieu en Corée à l'époque, en Corée du Sud, attaque cyber sur la cérémonie d'ouverture. Le stade ne peut pas se remplir, les systèmes de contrôle d'accès pour valider les billets, etc. sont désactivés. On regarde l'attaque, première analyse, c'est la Corée du Nord. Ok, un mois, deux mois, trois mois d'analyse, et non, en fait c'était la Russie. Et c'est ce qu'ont conclu différents services de renseignement dans différents pays.
Donc le danger, c'est d'aller trop vite.
C'est d'aller trop vite, c'est de se tromper de cible. Et c'est parfois, moi je peux vous raconter une autre anecdote intéressante, nous on fait de la réponse à incident, on va aider des entreprises justement quand elles sont attaquées. Et j'étais dans un grand groupe industriel français, là on voit qu'on est attaqué et on regarde d'où vient l'attaque, c'est-à-dire on va pas toquer à la porte, on regarde juste qui nous attaque. C'était une école maternelle au Japon. Vous croyez que c'est vraiment l'école maternelle qui nous attaque? Pas du tout. Ces systèmes avaient été pré-piratés par les attaquants, ils l'avaient utilisé pour rebondir. Et donc si on est dans un hackback un peu brutal de dire on me tire dessus, je tire en retour, ben, on aurait peut-être détruit les systèmes de l'école maternelle. Ça peut être beaucoup plus grave qu'une école maternelle.
Il ne faut pas s'inspirer. Alors, je ne sais pas, est-ce que les États-Unis, ça peut être un modèle, Sébastien Dupont?
Aujourd'hui, la doctrine française, européenne, s'aligne en grande partie sur ce qui se passe aux États-Unis. Ils ont été précurseurs là-dessus. Donc c'est
au niveau étatique. Ouais.
Au niveau étatique, c'est clairement l'alignement sur ce qui se fait aux États-Unis. Je voudrais revenir sur deux choses. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, ce qui est... intégrer la sécurité dans la construction des systèmes. On peut prendre les JO comme exemple. Mmh. Les JO, c'est de la réservation de billetterie. Et puis, il va falloir contrôler ce qui arrive dans les stades, etc. Tout ce système d'information doit être aujourd'hui sécurisé. Sécurisé, ça ne veut pas dire qu'il y ait zéro faille. Ça veut dire qu'on a identifié les risques, les mesures et qu'il y a des risques résiduels. Et à la fin, il y a un homme bien entouré de conseillers qui va dire « je prends le risque, j'y vais ». Et ce qui serait intéressant pour les JO, c'est qu'on sache qu'il y ait de la vulgarisation sur comment ça a été sécurisé, sur la méthode. On ne veut pas savoir le résultat final, mais sur la méthode. Parce qu'au final, il faut bien traverser la rue, il faut prendre un risque et sécuriser. Voilà. Et donc, la prise en compte de la sécurité, c'est un travail. Et ça, il faut que les entreprises en aient conscience. On appelle ça le « by design ». Dans l'expert, dans le jargon d'expert.
Et ce que je retiens finalement de ce que vous dites tous les deux, c'est qu'il s'agit d'agir beaucoup plus en amont pour lutter contre la cybercriminalité. Karine Bannelli, est-ce que le droit doit évoluer est-ce qu'il y a des choses à graver dans le marbre, vous qui êtes maître de conférence en droit international, pour lutter contre la cybercriminalité?
Alors, pour lutter contre la cybercriminalité, on a déjà des instruments juridiques internationaux qui sont bien développés. Mais pour revenir sur hacker les hackers et laisser les acteurs privés hacker en retour, j'aimerais quand même dire que la France n'est pas complètement alignée sur les États-Unis. Bien au contraire, elle a devancé les États-Unis. Il y avait des velléités, en effet, aux États-Unis de développer des règles qui autoriseraient les acteurs privés à faire du hacking en retour, du hackback. Et la France a été à l'initiative de l'appel de Paris de 2018, dans lequel on s'engage à empêcher les acteurs non étatiques, notamment le secteur privé, de mener des actions cyber-offensives en réponse à une attaque dont ils seraient victimes.
Et c'est important d'avoir un dogme là-dessus. Est-ce qu'il ne doit pas juste y avoir des exceptions?
Alors, ce que l'on peut imaginer, si vous voulez, alors cet appel de Paris, il a été même souscrit par les États-Unis récemment, donc les États-Unis aussi reconnaissent la dangerosité du hackback par le secteur privé, mais ce que l'on peut développer et ce que l'on voit se développer, on l'a fait déjà en France, notamment avec l'affaire RetaDub, c'est des actions coordonnées entre secteur privé et les États. Parce que, évidemment, les États peuvent être débordés par les cyberattaques et la lutte contre la cybercriminalité. Et des actions coordonnées peuvent être extrêmement efficaces pour démanteler, pour aussi enquêter sur ces réseaux cybercriminels.
Faut-il hacker les hackers? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, Jérôme Bilois, est-ce qu'il ne faut pas hacker avec les hackers? Quid de ceux qui nous attaquent au sens large, évidemment, et comment utiliser finalement leurs compétences? C'est déjà le cas, hein, je crois, d'utiliser. On parle de hacker éthique, notamment aussi. Comment faire? Parce que évidemment, là, on.
Alors, je pense qu'il faut déjà revenir sur le terme hacker, qui ne veut pas forcément dire que c'est uniquement une personne malveillante. Mmh. Ça peut être aussi quelqu'un qui sait très bien utiliser un système, le pousser dans ses retranchements. Et c'est pour ça qu'on fait souvent la différence avec des couleurs. Il y a les white hats, les chapeaux blancs, ceux qui sont justement dans une logique légale d'apport à la société, et puis les black hats, ceux qui sont finalement qui attaquent pour des raisons de malveillance. Et alors vous imaginez qu'il y a le grey hat au milieu qui, des fois, se dit être à gauche, mais est à droite, etc.
C'est très anglophone, hein, ce domaine.
Est-ce qu'il faut apprendre des hackers, et même des hackers malveillants? Évidemment, oui. Ouais. Il faut être constamment en observation de leurs méthodes pour pouvoir bien se défendre et pour pouvoir peut-être même, dans certains cas, réutiliser leurs outils, réutiliser leurs méthodes pour construire d'autres opérations.
Est-ce qu'on peut aller jusqu'à les débaucher et... faire alors, de la bienveillance depuis leur malveillance?
Ça arrive, ça s'est déjà fait, hein, de l'échange de peines contre des informations, en particulier aux États-Unis, où c'est des pratiques qui sont aussi réalisées en dehors du domaine cyber. Après, voilà, ça reste toujours un sujet qui, en Europe et en France, est plus difficile. La notion de confiance qu'on peut avoir dans les personnes est plus complexe à établir.
Sébastien Dupont, vous en pensez quoi, vous?
Moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans le hackback, le terme français, c'est contre-attaque. Ouais. Et si on prend un peu de hauteur, la question, est-ce que l'État français, au-delà de l'État français, le collectif, nous, on fait société, est-ce qu'on a pris la mesure des opportunités et des dangers du numérique? Quelle est notre doctrine? Vous avez utilisé ce mot tout à l'heure. Ouais. Quelle est notre politique? Quels sont nos indicateurs? Moi, ce que je ne vois pas aujourd'hui, c'est les indicateurs, les rapports que collectivement on arrive à produire pour aller saisir les opportunités. L'intelligence artificielle est sans doute une opportunité. Et quels sont les dangers? Tout à l'heure, on a cité des chiffres. Jérôme, à juste titre, a dit plusieurs centaines de millions d'euros, qui est le coût direct. J'ai les mêmes chiffres relevés par les assurances
De la cybercriminalité. De la cyber. Ouais.
Alors, petite parenthèse, ce n'est pas les centaines de milliards qu'on retrouve dans certaines études. Hein, il faut se calmer là-dessus, c'est que centaines de millions d'euros. Et donc, ça serait intéressant que collectivement, on arrive à faire de la prospective et mettre les moyens adaptés aux enjeux.
Et agir davantage en amont plutôt que hacker les hackers, c'est ce que vous dites finalement. Merci Sébastien Dupont, ancien responsable sécurité informatique, Jérôme Bilois et Karine Bannelier, mes deux autres invités. Merci à vous pour ce débat du jour.